Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr, avec Fanny De Citre, de la librairie du Cyprès Jean de la Lune, à Nevers, et Arthur Caillot, l'ado accro au livre. Vous êtes bien sur Bac FM et j'ai bien un masque sur le visage. Nous sommes de retour dans les studios, mais seulement deux par deux pour des raisons sanitaires, bien sûr. Et si ma voix est un peu étouffée, eh bien, c'est parce que je suis masquée pour garder donc nos distances et respecter donc toutes ces protections, ces gestes de protection. Je suis avec Arthur, l'ado accro au livre, avec
Bonjour,
qui
Claire.
Nous ouvrons cette émission. Bonjour Arthur. Alors Arthur a un masque aussi.
Oui.
Donc on a des têtes un peu étranges, mais ça tombe bien parce que je crois, Arthur, que vous allez nous parler de dystopie environnementale.
Effectivement.
Donc nous avons déjà le matériel.
Oui.
Allons-y. Je crois que c'est RC 2722, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. C'est un roman d'anticipation assez original qui ne promet pas de beaux jours à notre planète. Mais voilà.
C'est une dystopie, c'est normal.
C'est ça, ouais. Et du coup, c'est un des romans que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je vais aussi vous présenter le nouveau roman des éditions Syros, qui est sorti le 8 octobre et qui a un titre assez étrange, qui est « Même les araignées ont une maman ».
Mais parce que c'est vrai. On a envie de savoir pourquoi ce titre si énigmatique a été donné à ce livre.
Justement, commençons sans plus attendre avec ce roman. Alors, c'est le nouveau roman de Alain Gagnol, qui est un de mes auteurs favoris, et il a écrit une série formidable, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Power Club.
Eh bien non, je ne connais pas, mais je sens que ça gagne à être connu.
Et c'est tellement bien que ça va même peut-être être adapté en film. Et du coup, c'est génial parce que on veut tous un film de ce roman. Ceux qui l'ont lu, en tout cas. Bref, du coup, son nouveau roman est tout aussi génial et vous allez voir pourquoi. Le chat de Thomas a disparu. Il est introuvable et c'est très étrange car il n'est jamais parti aussi longtemps. Une nuit, en le guettant par la fenêtre, il découvre une jeune fille assise dans un jardin avec un masque d'opéra chinois sur le visage. Bon, c'est pas tout à fait le même que le nôtre.
Non.
Alors,
ce serait
curieux,
drôle
du
si
coup,
on avait des masques d'opéra chinois.
Ça fait un peu peur.
Oui.
Du coup, curieux, il l'interpelle, mais elle s'enfuit en courant et il a tout juste le temps de reconnaître Emma, sa voisine mystérieuse qui ne sort jamais. Mm-hmm. Voulant à tout prix découvrir ce qu'elle fait, il va aller lui parler et va découvrir qu'elle est télépathe.
Ah oui, quand même.
Oui. Et du coup, son don pourrait bien les aider à trouver le chat de Thomas. Mm-hmm. Mais ils vont aussi, par la même occasion, essayer de chercher le tueur qui sévit en ville, le tueur d'animaux. Qui sévit en pleine nuit. Oui. Ça rappelle un petit peu, justement, l'histoire des chevaux qui sont tués en ce moment en France.
Oui, qui sont mutilés et tués. Mais en fait, oui, la fiction rejoint le réel. Pas forcément dans ce qu'il a de plus beau, mais j'espère que le réel finira aussi bien que la fiction, parce qu'on finit par... Enfin, je ne vais pas dévoiler la fin.
Et du coup, c'est une entête haletante et un don si bien décrit qu'on croit qu'il existe vraiment, quoi. Et c'est incroyable parce que j'ai fait cette lecture avec quelqu'un d'autre et la personne, elle croyait que le don existait vraiment.
Ah.
Et que la télépathie existait vraiment.
Ah bah oui, alors non en fait, cette personne a dû être fort, fort déçue de constater que non, et que même si elle travaillait beaucoup, elle n'arriverait pas à l'acquérir. Oui, c'est frustrant, c'est vrai.
Bref, du coup, ce roman, c'est une pépite que je vous conseille, il faut que vous couriez l'acheter en librairie, il est génial.
Alors allons-y, ce sera le roman de l'automne à lire pendant les vacances de la Toussaint.
Exactement. Et du coup, le deuxième roman est totalement différent puisqu'il est beaucoup plus sombre et il se passe dans un futur apocalyptique.
Oui, c'est ce que vous aviez l'air de dire, une petite dystopie pour lire sous la couette, pour se faire peur.
Alors, le titre RC 2722, il interroge un petit peu, on se demande ce que c'est. Et ça veut dire réfugié climatique, justement, 2722.
Ah oui, donc c'est un code, c'est le nom, le numéro de code.
C'est ça. Donc, dans un monde dévasté par une épidémie mortelle et par la sécheresse, les seuls êtres humains vivants sont réfugiés dans des abris souterrains, hyper sécurisés et secrets. Ils permettent de protéger les gens des radiations, de la chaleur et du virus mortel qui a annihilé l'humanité. Olivier est un jeune garçon qui n'a jamais vu la terre ferme depuis presque 15 ans et qui vit dans un de ses abris. Mais un jour, son père meurt brusquement et son frère est condamné à l'exil.
Bah dis donc, ça commence très fort, hein.
Ah oui, oui. On est tout de suite dans l'action.
Oui.
On se demande, mais justement,
sombre.
Il est exilé à l'extérieur. Donc Olivier va essayer, coûte que coûte, en sortant de son abri, de le retrouver. Mais à quel prix, justement ? Oui, qu'est-ce qui l'attend là-haut?
C'est ça, on se demande.
Et à quel danger s'expose-t-il surtout?
Oui, parce que c'était un virus mortel, ça nous rappelle des souvenirs.
C'est un peu flippant
bon,
d'ailleurs.
Voilà, c'est peut-être pas le truc à conseiller aux gens qui sont stressés par le virus.
Un petit peu, oui.
Ou au contraire, ça peut exorciser
la peur.
Mais là,
c'est surtout à cause du réchauffement climatique,
virus. Donc ça va.
Et du coup, je ne vous dévoilerai rien, bien sûr, mais je vous laisse découvrir ce roman sans plus attendre.
Mettez l'eau à la bouche seulement.
Oui. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette lecture, justement, c'est la remise en question de la nature humaine et de la façon de penser des humains. Donc, pourquoi les dirigeants, par exemple, ne font-ils rien contre le réchauffement climatique? Pourquoi l'homme veut-il toujours prouver qu'il est le meilleur? Pourquoi n'essaie-t-on pas de trouver des alternatives écologiques au lieu de privilégier l'argent? De nombreuses questions qui nous viennent à l'esprit pendant la lecture du roman et qui permettent de sensibiliser le lecteur au respect de l'environnement. Le livre nous le montre donc très très bien. Si nous faisons rien maintenant, demain il sera trop tard.
Mais en fait, vous n'êtes pas Arthur Caillot, vous êtes Greta Thunberg. Je vois.
Bonjour.
Sous le masque, je ne vous avais pas reconnu.
Ça permet de se camoufler. Bref, du coup, ce roman, à mon avis, il est essentiel et chacun d'entre nous devrait le lire parce qu'il permet de s'interroger sur la question de l'écologie et sur le réchauffement climatique qui est vraiment très présent en ce moment, quoi.
Ah ben oui, je crois qu'on le constate tous les jours. Et pourquoi donc les dirigeants, comme vous l'expliquez dans votre présentation, ne font pas ce qu'ils devraient faire? Pourquoi les gens, monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, ne font-ils pas ce qu'ils devraient faire?
Exactement, ouais.
La réponse nous ferait peut-être un peu peur, mais elle est entre les lignes de ce roman, si j'ai
Exactement.
Bien compris. Eh bien voilà, nous allons en savoir plus sur nos faiblesses et nos médiocrités humaines. Avons-nous envie de le savoir? Je ne sais pas. nous le devinerons à la lecture de ce roman qui est très intriguant, en effet, et qui donne envie d'être lu.
Il est très très bien.
Eh bien, merci beaucoup, Arthur, pour ces chroniques qui sont très alléchantes pour les semaines qui viennent. Alors, j'invite les auditeurs à aller consulter vos comptes Facebook et Instagram, donc l'ado accro au livre, sur lesquels ils trouveront d'autres suggestions dans différents genres.
Oui, parce que j'ai quand même lu une dizaine de romans ce mois-ci, donc... Donc ils trouveront leur compte.
Oui, il y aura un beau choix. Voilà. Merci beaucoup, Arthur.
De rien.
Alors, changement de configuration dans le studio, c'est la magie du montage. C'est le moment de la chronique de Fanny, masquée de vert. Oui, parce que je n'ai pas précisé qu'Arthur était masqué de bleu. Donc, on change de couleur. Et attention, ça va. Oui, c'est magnifique. Attention, ça va décoiffer parce qu'on part avec un dieu inconnu dans les hautes terres lointaines. Donc, bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Quelle lecture est-ce que vous nous proposez de savourer sous la couette avec un chocolat chaud?
Alors, oh là là, ça fait tellement envie. Alors, on va commencer pour changer un petit peu des nouveautés.
On en a marre des nouveautés. Il y a 500 nouveautés à la rentrée littéraire. Nous, on en a marre. On veut autre chose.
C'est ça qui est compliqué quand on est libraire, c'est qu'on se jette sur les nouveautés alors que c'est toujours très agréable de se replonger dans un classique.
Alors là, je suis prêche une convaincue.
J'ai choisi John Steinbeck. Donc avec un livre qui s'appelle « Odieux inconnu ». Moi, John Steinbeck, je lui voue un culte quasiment à cet homme.
C'est ton dieu inconnu.
Voilà, vraiment. Et j'ai choisi un livre qui va être moins connu que « Les raisins de la colère » ou « Des souris et des hommes », qui mérite en fait justement d'être connu. Il est sorti en 1933 et c'est l'histoire de Joseph Wayne, qui après avoir reçu la bénédiction de son père d'une manière quasi biblique, part à la conquête de l'Ouest, en Californie, donc une terre chère à Steinbeck, pour prendre possession des peu de terres restantes, où si on y vit plus de 6 mois, on peut se proclamer propriétaire de ces terres. Donc c'est quelque chose qui est évidemment plus possible aujourd'hui.
À la grande époque, en effet.
Voilà, donc il arrive dans une vallée absolument magnifique, verdoyante. On le met en garde un petit peu sur la sécheresse qui sévit quelquefois, qui a contraint tous les habitants à partir, mais... Ce Joseph n'y croit pas vraiment et s'installe tout de même. Il rapatrie ses frères et sœurs là-bas à la suite de la mort de leur père. Et voilà, c'est leur vie dans cette vallée. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant... Bon, on ne va pas parler du style ni de l'écriture qui est évidemment superbe.
C'est du Steinbeck.
qui a une simplicité et une fluidité que je trouve vraiment magnifique. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est C'est ce personnage de Joseph Wayne qui se plonge dans un espèce de paganisme à la suite de chaque événement qu'il traverse. Par exemple, suite à la mort de son père, il va voir, littéralement voir, l'âme de son père dans le chêne qui est sur sa propriété. Donc il va vouer un culte justement à ce chêne. Il arrive dans une clairière avec un rocher un peu mystérieux et tout de suite il va y voir un lieu de recueillement. Il se dit bon, il faut que je retourne là-bas quand ça ira moins bien, enfin etc.
C'est un garçon très mystique.
Oui, complètement, qui est très simple, voilà, qui a pas une culture énorme, qui se marie avec la maîtresse du village voisin, mais avec une espèce d'audace en lui disant mais moi je ne sais rien, je n'ai pas toutes vos connaissances et pourtant j'en sais beaucoup quand même.
Et oui, c'est un autre type de connaissance qu'il détient.
Exactement. Et il a la connaissance de la Terre et c'est ça aussi qui est très très beau dans ce livre. C'est l'amour quasi charnel, j'ai envie de dire, qui le porte à la Terre. Parce que c'est un cultivateur, évidemment. Mm-hmm. Et quand on le met en garde sur cette sécheresse qui peut arriver et il garde ça quand même dans le coin de sa tête et il scrute le ciel désespérément en attendant la pluie. Parce qu'une sécheresse va effectivement arriver. Bon, je spoil un peu, mais...
Et
j'aimerais
rapidement,
en fait, lire un tout petit passage, mm-hmm. parce que c'est marrant. J'ai lu ce livre quand, à la fin de la canicule, là, cet automne, quand il a commencé de pleuvoir. Et j'ai lu ce livre à ce moment-là. Et moi, j'adore la pluie. Donc, il y a un tout petit passage que j'ai trouvé assez... Enfin, pas amusant, mais qui résonnait un petit peu avec ce qu'on vivait. Alors... Il vit tomber les premières grosses gouttes qui firent gicler des particules de poussière avec un bruit mat. Le sol fut aussitôt criblé de taches noires. La pluie devint plus dense et un vent frais l'inclina. L'odeur pénétrante de la terre mouillée monta du sol et c'est seulement alors qu'éclata le premier orage de l'hiver, ratissant l'espace, tambourinant sur les toits, dépouillant les arbres de leurs dernières feuilles trop faibles pour résister. La terre noircit. De petites rigoles commencèrent à se faufiler à travers la cour, etc., etc. Je trouve que c'est une... Très belle description de la pluie qui arrive et cette libération, voilà, enfin la pluie tombe, enfin bon.
Oui.
Bref.
Effectivement, quand on le lit après la canicule que nous avons connue,
ouais.
On éprouve encore plus profondément ces sentiments qui sont décrits dans
oui,
ce livre.
Exactement, parce que je pense que c'est comment dire, ce serait presque idiot de se plaindre de la pluie. J'ai envie de dire,
oui,
profitons-en.
Là, c'est libérateur. Là.
Profitons-en, voilà, de toute cette pluie, parce que déjà en 1933, c'était un problème en Californie et ça devient un vrai problème dans le monde.
Maintenant,
bon,
c'est dans le monde.
Voilà.
Donc, on parlait tout à l'heure avec Arthur des problèmes de l'environnement.
Oui.
Finalement, on y revient.
Ça, ouais.
On y revient. Mais ce n'est pas le seul livre dont vous voulez nous parler.
Non, tout à fait. Le deuxième livre, c'est un ouvrage de Nathalie Léger, qui s'appelle « Suivant l'azur », qui est paru aux éditions POL le 1er octobre. Mm-hmm. Et c'est un livre qui m'a été conseillé par Charlotte, ma collègue. Mm-hmm. C'est un livre vers lequel je ne serais pas allée de moi-même. J'y suis pas allée avec des a priori, mais bon, voilà, je me suis dit « bon, allons-y, on va voir ». C'est un tout petit livre qui fait 70 pages. C'est un livre sur le deuil, mmh. parce que Nathalie Léger a perdu son compagnon en 2018. Et elle explique, en fait, dans ce livre, ce besoin viscéral d'écrire pour tenter de faire vivre encore un petit peu son mari à travers l'écriture. Moi, ce qui m'a frappée d'emblée, c'est le style, justement, de Nathalie Léger. Ça m'a donné envie de lire d'autres ouvrages d'elle.
De découvrir
parce
d'autres...
pour voir, en fait, sur un autre registre, est-ce qu'on retrouve cette écriture que je trouve, je ne sais pas comment dire, mais presque vaporeuse. Je ne sais pas si le terme est exact, mais mm-hmm. en tout cas, qui n'est jamais dans le détail. On n'est pas dans le détail macabre de la maladie de son mari et de sa mort. Mais c'est tout en subtilité, en finesse. Presque un peu obscur des fois, mais où on retrouve l'essence même de l'émotion de cette femme, de la tristesse. C'est un livre qui est de fait assez triste, qui remue, qui est très, très, très émouvant. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau... qu'on y trouve presque un espèce de réconfort à la lecture. C'est presque une lecture plaisante parce que c'est universel, c'est un livre dans lequel on peut s'y retrouver si on a connu la perte d'un être cher ou voilà, si on a expérimenté le deuil, mm-hmm. C'est un livre qui peut faire du bien, justement, qui peut un peu soigner, qui peut aider. En fait.
Oui, c'est un livre qui réconforte, comme vous le disiez.
C'est un livre qui réconforte.
Oui, c'est vrai que c'est un peu inattendu, parce que d'après ce que vous disiez, on pouvait se dire « Ouh là là, ça va être lourd, ça
mais
va
non,
être
justement,
pénible,
et c'est
mais
ça
c'est
que je trouve excellent. Et d'ailleurs, c'est ça que... C'est, le fait d'écrire pour se faire du bien, quand l'auteur voilà, écrit parce que c'est vital, parce qu'il veut se soulager de quelque chose, c'est en général un exercice qui me met un petit peu mal à l'aise, que j'aime pas forcément. Mm-hmm. Et là, j'ai trouvé ça nécessaire en fait, comme témoignage, et c'est magnifique. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire un tout petit passage, oula, qui est assez rapide. J'en jette mon livre. L'avant-dernier matin, il est sorti du sommeil et il a dit :« J'ai peur. » Implosion sourde au milieu exact de tout ce qui est. J'ai pris très doucement sa main tout en cherchant les mots. Je voulais laver et panser l'horrible blessure de sa peur. On ne peut le faire qu'avec des mots. Je les ai cherchés et je n'ai pas su les trouver. Le sens d'une vie ne tient pourtant qu'à ça, que les mots soient dits. La voilà, la trahison. C'était le dernier abri qui nous restait et je n'ai pas su trouver les mots. Un passage Ouh. Un petit peu, voilà, lourd.
Mais en effet, c'est très beau, surtout qu'elle parle de l'incapacité des mots.
Voilà, et c'est
alors
ça
qu'elle
que
les utilise et que finalement, ouais. Ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit, ouais. Prouve le contraire de ce qu'elle
tout
croit
à fait.
Dire.
Tout à fait. Et c'est cette espèce de regret de pas avoir su trouver le mot juste et que, à force de chercher à trouver les mots justes, il aurait peut-être suffi de dire quelque chose, juste dire quelque chose, et que à force de chercher le mot juste, eh ben elle a été dans l'incapacité de dire quoi que ce soit, et c'est un regret qu'elle éprouve. J'ai trouvé ça très, enfin ça dit tout quoi. C'est,
alors moi je ne connais pas le roman, mais bah, du coup j'ai très envie de le lire.
Bah, tant mieux. C'est le but de la manœuvre.
Eh bien, bien vu, bien joué, ça marche, c'est efficace. Merci beaucoup, Fanny.
Avec plaisir.
Après des romans aussi puissants et attachants et émouvants, nous allons faire une petite pause musicale pour nous donner alors un petit avant-goût de l'interview de Mercedes de Ambrosis que nous recevons tout de suite après. Voici la musique qu'elle a choisie, Rumble Tumble par les Creedence Clearwater Revival.
Oh,
ça renvoie dans le passé. On écoute Rumble Tumble. C'était Rumble Tumble par les Creedence Clearwater Revival, le choix de notre invité. Vous êtes bien dans les voies du livre sur Bac FM, l'émission consacrée à tous les livres et spécialement aujourd'hui à Rendez-vous au paradis de Mercedes de Ambrosis. Bonjour Mercedes.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes écrivaine, vous êtes espagnole de langue française, auteur notamment du recueil de nouvelles « La promenade des délices », mais aussi du roman « Milagrosa » et, il y a quelques jours, le 8 octobre, de « Rendez-vous au paradis », publié par les éditions du Chemin de fer. Alors, tous vos écrits sont marqués par l'empreinte du franquisme, comme gravé dans la chair de leurs mots, et celui-ci ne fait pas exception. On y retrouve d'ailleurs le souci du détail qu'on avait déjà lu sous votre plume dans « La promenade des délices », mais... Car il y a un mais, ce roman présente la particularité de montrer la relation que le personnage principal, vous, entretient avec sa mère sous un angle personnel, voire très intime, puisqu'on peut y lire « Tu es la plus grande erreur de ma vie, j'ai mis au monde ma pire ennemie », donc dans la bouche du personnage de votre mère, ce qui est quand même un petit peu un peu fort. Et pour un sujet comme celui-là, ben vous écrivez en français, comme toujours, même si vous êtes espagnol, comme votre mère. Quel rôle joue le choix de la langue dans un texte aussi intime et qui énonce des paroles aussi brutes et définitives ?
Alors, votre question, elle est super. Et ça va me permettre d'aborder peut-être deux ou trois points qui sont induits. D'abord, j'ai toujours écrit en français. Ce n'est pas un choix. C'est que le français est ma langue d'apprentissage. C'est-à-dire, je suis venue en France à 12 ans, je ne parlais pas un mot de français. Et grâce à cette venue, le français est rentré en moi. C'est devenu la langue de ma lecture, c'est devenu la langue dans laquelle je m'exprimais. Je parle espagnol absolument couramment, mais
bien sûr,
c'est pas pareil. Et puis... autre chose, donc c'est pas vraiment un choix, c'est que je n'ai jamais rien écrit en espagnol. Je peux écrire en espagnol, hein. Mm-hmm. J'ai certainement pas le vocabulaire nécessaire pour écrire un roman, mais je suis parfaitement bilingue. Mais par contre, de temps à autre, je fais quelques petites poésies, et là, je suis incapable d'écrire en français.
Ah. Voilà.
Et à part ça, je devrais dire que... c'est mon premier texte autobiographique.
Ah oui.
Donc, il est vrai que quand un livre est publié, on devient des personnages, mais ce livre, enfin, il n'y a aucune fiction. Rien. C'est vraiment... c'est la première fois que j'écris un texte autobiographique. Et s'il est paru, c'est vraiment dû à la constance, à la volonté, à l'amitié énorme, ouais, que François et Renaud ont vis-à-vis de moi. S'ils ne m'avaient pas poussé, je ne l'aurais jamais publié. Et d'ailleurs, j'ai tout fait pour qu'ils ne le soient pas. Ils insistaient pour le lire, je les ai fait attendre un an. Quand je leur ai envoyé le manuscrit, j'ai envoyé un bout, pensant que je l'avais envoyé en entier. Donc vous voyez, acte manqué à l'appel.
Oui.
Voilà. Et donc, je suis très, très contente qu'il soit paru.
Et justement, quelle différence faites-vous entre la publication d'un texte autobiographique aussi intime et l'un de vos autres textes, roman ou nouvelle ? Quel effet cela produit sur vous de publier un texte autobiographique pour la première fois ?
Écoutez, j'essaie de ne pas y penser.
Alors, on ne va pas...
J'essaie de me mettre dans la peau. Allez, hop, t'as écrit un truc, voilà, c'est plus toi. Mais...
Ça n'est pas un soulagement, par exemple.
Pas un soulagement, mais un apaisement. Un apaisement. Mm-hmm. J'ai commencé à écrire ce livre au chevet de ma mère.
Oui.
Je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Effectivement, j'écrivais ce que j'étais en train de voir. Et puis, ce que je voyais est exactement à l'image de ce qu'a été notre relation presque toute ma vie. Donc, voilà. J'ai fini par continuer une fois qu'elle est décédée. Voilà. Et je pense que j'ai compris pas mal de choses en l'écrivant.
C'est ce qui vous a décidé à le publier, peut-être, finalement ?
Ah non, pas du tout. C'est François.
Mm-hmm. Comment est-ce que vous avez décidé de commencer l'écriture de ce texte ? Vous dites que vous avez commencé au chevet de votre mère.
Mmh.
Est-ce qu'il y a eu un moment particulier, une phrase, ou est-ce que c'est venu progressivement ?
Bah, écoutez, j'ai une petite sœur. Moi, j'étais en vacances. Je travaillais encore. Hein. J'avais pris de longues vacances pour être avec elle, etc. C'était pas une partie de plaisir, mais bon, voilà, je crois que je suis vraiment ce qu'on appelle bêtement une femme de devoir, et je l'ai chevillée au corps, et voilà, et on alternait, j'essayais de la remplacer au maximum, parce qu'elle en avait beaucoup pris sur ses épaules, et elle a encore des jeunes enfants, tandis que moi non. Et puis, écoutez, les heures étaient très longues à l'hôpital. Très, très longues. Elle dormait la plupart du temps. Quand elle dormait pas, vous l'avez lu,
oui.
Vous voyez, c'était pas facile. Et je crois qu'un jour, en pleine nuit, je me suis dit, si je fais pas quelque chose, je vais partir. Et j'ai commencé à écrire, voilà.
Oui, c'était votre porte de sortie, en fait, quelque part.
Oui.
Est-ce que vous diriez que ce texte a eu, quelque part pour vous, quelque chose une vertu thérapeutique ?
Oh, je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Que j'ai d'abord, je me suis obligée à réfléchir, à relire des lettres, des documents de ma mère. Je n'ai jamais lu leurs lettres, hein, entre mon père et ma mère, parce que je ne veux pas.
Mmh.
Mais j'ai relu, je suis revenue un peu en arrière. Et voilà, j'ai trouvé certaines explications à son attitude qui était très violente la plupart du temps.
Les explications ou l'attitude, les deux ?
Ah non, je veux dire des explications à sa façon d'être.
Mmh.
C'est ça que je voulais dire. Sinon, ma mère, elle était la personne la plus charmante, la plus gentille du monde avec tout ce qui est extérieur. Elle était très sociale.
Mais
c'était une excellente professeure.
Mm-hmm.
Mais elle était en lutte perpétuelle contre tous les siens.
Et c'est cette lutte que vous décrivez, oui, d'ailleurs aussi dans le... Alors, est-ce que vous l'appelez roman ? Comment voulez-vous appeler ce texte ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que mon éditeur préféré et adoré voudra. Ça m'est complètement égal, voilà, il est là. Je trouve que, et là vraiment c'est un grand hommage à Renaud, je trouve que le livre est absolument magnifique dans sa forme, dans son graphisme. Franchement, je suis épatée.
Oui, parce qu'il faut préciser pour les auditeurs qui ne voient pas le livre, moi je l'ai sous les yeux, donc c'est plus facile, qu'il est présenté sous une très belle couverture verte, et qu'il mélange des photos qui sont des photos de famille,
mère, essentiellement,
voilà,
oui.
des photos de votre mère, qui sont présentées de manière découpée avec des ombres, des dessins d'encre, des fleurs.
Imaginez-vous, Renaud a dessiné des fleurs vénéneuses. Et je trouve ça super, magnifique. C'est vraiment un garçon d'un très grand talent.
Et effectivement, il faut voir le livre, hein. Donc on ne peut pas se rendre compte de l'effet produit tant qu'on ne l'a pas vu. Il faut le voir. Alors, on va faire une petite pause musicale avec une musique que vous avez choisie, donc Imagine, de John Lennon. Et on se retrouve tout de suite après John Lennon.
No hell below us.
C'était donc Imagine de John Lennon. Nous sommes toujours sur Bac FM avec Mercedes de Ambrosis, notre invitée dans les voies du livre, qui vient de faire paraître le 8 octobre dernier Rendez-vous au paradis et qui parle donc de sa mère. C'est un texte entièrement autobiographique et qui en plus est paru le jour anniversaire de la mort de votre mère, Mercedes.
Oui, je me suis dit, attends, j'ai regardé, c'est aujourd'hui, enfin, c'était le 8 octobre.
Alors que ça n'était pas prévu de cette manière.
C'était pas du tout. Moi, je ne le savais pas déjà. Et enfin, je ne m'en souvenais pas. Et François et Renaud non plus, bien sûr.
Donc c'était un petit peu une coïncidence, on va dire.
Voilà.
Alors vous mettez dans ce texte autobiographique qui n'est pas vraiment un roman, qui est un objet littéraire non identifié, mais un très bel objet littéraire. Vous mettez en parallèle deux récits, deux destins, l'un inscrit dans l'histoire et l'autre plus intime, mais qui sont des récits de la même personne. Pourquoi avoir choisi ces années-là du franquisme? Pensez-vous que ce soit celles qui ont le plus formé le personnage de votre mère, de Goury?
Bien sûr, puisqu'elle l'a vécu. Elle est née en 31.
Oui.
Donc, elle a vécu la guerre civile étant toute petite. Et son père était militaire franquiste.
Donc, elle était vraiment au cœur du franquisme.
Comment dire, national. Je dirais pas franquiste, parce que mon grand-père, que j'adorais, était tout sauf franquiste. C'était Franco, mais il était quand même de l'armée nationale, voilà.
Et donc ces années ont particulièrement formé le caractère de votre mère. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez trouvé des explications à une attitude un peu brutale. Est-ce que vous trouvez ces explications?
Je ne pense pas que c'est le franquisme qui l'a rendu comme ça du tout, puisque quand on est enfant, voilà, mais je pense surtout que c'est... D'une certaine manière, je crois qu'elle avait un besoin énorme, plus que normal, de reconnaissance, d'être la première, de briller. Elle était très belle. Vous avez vu sur les photos, je pense qu'elle était vraiment d'une beauté presque d'une artiste d'Hollywood.
Oui.
Et je sais pas, je pense qu'elle a commencé à ressentir que tout était injuste par rapport à ce à quoi elle aurait dû avoir accès. Et notamment, comme elle avait un caractère très très difficile dès l'enfance, eh bien, son père, bah, il préférait sa sœur.
Oui, ce qui n'a pas arrangé les choses, certainement.
Non, et je pense que tout a été comme ça.
Alors c'est quand même un portrait de femme finalement assez nuancé que vous présentez.
Oui.
Parce que même si on entend bien les sentiments qu'elle provoque en vous, vous écrivez quand même « Quand va-t-elle mourir enfin ?»
Oui.
C'est très fort. Et justement, pour autant, vous ne présentez pas votre mère sous un jour uniquement négatif. Vous lui trouvez aussi...
Pas.
Voilà.
Elle n'était pas. Et puis, je crois qu'elle m'a aimée à sa façon, qui ne correspondait pas du tout à ce que j'attendais. Enfin, ce que j'attendais, vous voyez ce que je crois que toute personne peut espérer. Moi, elle était tellement autoritaire, tellement dictatoriale, mais vraiment, c'était elle, c'était pas du tout le franquisme.
Oui.
Tout comme ma grand-mère, mais comme sa propre mère. Que voilà, ça l'a changé, et puis voilà, elle était extrêmement conflictuelle.
Oui, les exemples que vous citez, les scènes que vous décrivez, sont d'une clarté très très nette sur cet aspect. Alors justement, vous écrivez une langue faussement simple, hein, au présent, avec des verbes directs. Est-ce que c'est pour mieux faire ressortir le caractère brut du fond du sujet?
Écoutez, j'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi. C'est venu comme ça. Voilà. Je sais pas.
C'est la manière la plus simple, la plus normale qui vous est apparue, qui est arrivée sous votre plume, en fait.
Vous savez, un texte autobiographique, pour moi, c'est une grande nouveauté. Mm-hmm. J'avais écrit un petit texte collectif, enfin, dans un livre collectif extrêmement joli, aux Arènes, sur un livre qui est paru il y a, je crois, 2 ans, pour venir en aide aux libraires indépendants.
Mm-hmm.
Sur notre relation à la librairie. Et là, j'ai raconté quelque chose que j'ai vécu quand j'étais enfant au Portugal avec un libraire. Mais à part ça, je n'ai jamais rien écrit d'autobiographique.
Et vous sentez une différence dans votre écriture quand vous écrivez un texte autobiographique, où vous maîtrisez moins la langue, ou vous ne cherchez pas à la maîtriser autant?
Bon, là, j'ai pas cherché. C'était... Enfin, vous savez, quand vous commencez à écrire sur un cahier en pleine nuit avec une veilleuse, vous écrivez, point. Et après, bien sûr, j'ai eu la relecture extrêmement attentive, bienveillante, exigeante de François, qui a été dans mon sens.
Oui, il a un regard très, très fin et très subtil.
Ah oui. Et je vais vous dire, vous m'avez demandé tout à l'heure, je crois,
oui,
si j'avais choisi cette forme d'alternance de récit.
Oui.
Eh bien, je dois dire qu'au début, c'était pas du tout ce que j'avais envisagé. Enfin, ni envisagé, ni fait, j'avais tout mêlé, et puis voilà. Et puis François me dit, mais pourquoi tu n'en fais pas un personnage à part, un personnage littéraire total? J'ai réfléchi, j'ai commencé, et puis j'ai eu le même conseil de Michel Gazier, qui pour moi est vraiment une sœur en littérature et en tout. Bon, on se connaît pas depuis 20 ans, mais c'est vraiment une grande femme dans tous les sens du terme, enfin pas physique, mais
oui, toutes les autres dimensions,
morale, le talent, la générosité, tout, qui m'a dit, mais Mercedes, fais-le. C'est vraiment ça ce qu'il faut. Et voilà, grâce à ces 2 anges, plus Renaud, je l'ai fait.
Et bien ça fonctionne. Ça fonctionne Merci. Très bien, vraiment.
Merci.
Et je trouve que ça donne justement toute la profondeur à ce personnage, qui une profondeur nécessaire parce que ce que vous dites d'elle étant très très dur quand même, on a besoin justement de cette profondeur pour mieux comprendre la portée de ce que vous dites et de ce qu'elle vous dit aussi, puisque vous dites quand même ce qu'elle nous a asséné, reproché sans cesse, ne pas avoir été de bonne fille, forcément. Ce sont des propos quand même assez assez lourds et qui ne peuvent pas rester lettre morte. On se doute bien que ça a dû être extrêmement marquant pour vous.
Oui, moi ce qui m'a quand même beaucoup traumatisée, si je peux employer ce mot qui est certainement trop fort, c'est la dernière phrase qu'elle m'a dite avant de mourir.
Oui.
Je me suis dit, quand même, merde. Pardon, je ne devrais pas dire ça à l'antenne.
Mais... Oh, mais il n'y a pas de mal.
Je me suis sentie vraiment mal, quoi.
Oui, c'est normal de se sentir mal quand on entend ça et que c'est la dernière phrase, ou quasi. Non, c'est la relation est très claire, la relation que vous entretenez ou que vous indiquez d'entretenir avec votre mère, justement, est bien mise en évidence par cette alternance. Parce qu'on comprend comment elle est devenue, qui elle est devenue par rapport à vous, comment elle l'a ressenti et comment vous perceviez cette évolution, cette construction. Donc il y a une double lecture. Et c'est très clair. Je pense qu'en effet, le choix de l'alternance est une manière très efficace pour le lecteur de rentrer dans un univers qui normalement est personnel et intime et qui est difficile à démêler. Mais là, le lecteur comprend et le lecteur peut trouver aussi un certain nombre d'échos parce que c'est humain. C'est un texte d'une profonde humanité. Je le précise parce qu'on pourrait croire que c'est un portrait à charge et que voilà, il y a rien d'autre derrière, mais pas du tout.
Certainement, il est à charge. Je ne nie pas ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit. Mais voilà, c'est quand même difficile parce que bon, nous ne nous connaissons pas, Claire. Mais j'ai quand même quelqu'un pas du tout conflictuel.
Ah bah oui, non mais tout à fait.
Et pour moi, c'est un énorme échec. Que la seule personne au monde, entre guillemets, avec qui j'aurais dû avoir des relations, allez, on va pas dire merveilleuses, parce que ça existe quand même pas tout le temps, mais un peu plus normal, j'ai pas réussi à le faire.
Mais ce roman montre, ce texte autobiographique montre quand même que des liens ont été tissés, malgré tout.
Bien sûr.
Et c'est ça qui rend la chose humaine, qui rend aussi le livre universel, quelque part. Parce que ça n'est pas... Ça va au-delà d'une simple expérience personnelle. On sent que c'est cette humanité-là dont je parlais. On sent une universalité. On sent la conflictualité, bien sûr, mais aussi les passerelles qui existent et les tentatives de les vôtres, mais aussi parfois les siennes, même si elles ne sont pas toujours couronnées de succès. Il y a quand même des tentatives. Et c'est vrai que c'est l'une des beautés de ce texte et l'une de ses profondeurs. C'est justement de montrer la réalité de la difficulté des relations humaines, même si les gens sont de bonne volonté.
Bien sûr. Merci.
Et justement, c'est votre premier texte autobiographique. Quel lien, d'une manière peut-être plus générale, entretient pour vous la fiction avec le réel dans votre inspiration d'écrivaine, habituellement, peut-être en dehors de ce texte ?
Alors, dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, publié ou pas publié, il n'y a rien d'autobiographique, sauf qu'il y a toujours mon regard sur les choses, sur ce que je vois, sur ce que je ressens, évidemment, et voilà.
Oui, c'est votre sensibilité qui est utilisée dans les textes habituellement, mais pas votre expérience de vie personnelle, en fait.
Non. En fait, peut-être, il y a des petites bribes de trucs, mais vous savez, les écrivains, on est tous un peu des voleurs.
C'est sûr.
Comme les Indiens pensaient que les gens qui faisaient des photos volaient leur âme, je pense que je suis un peu comme ça.
Vous êtes une voleuse d'expérience humaine.
Voilà. Et bon, j'entends, je vois, Et tout ça, ça s'emmagasine dans ma tête, et à un moment donné, bah, ça sort. C'est une autre forme, bien sûr, mais...
Et vous le retransmettez à nous, les lecteurs?
Bah, si vous voulez.
Eh bien oui, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens quand je lis vos textes, vos romans. C'est aussi comme ça que je l'ai ressenti en lisant donc votre première incursion autobiographique. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette étonnante et très émouvante interview. Je vous remercie beaucoup, Mercedes de Ambrosis, d'avoir éclairé notre lecture de votre roman ou de votre livre, on ne sait pas trop comment l'appeler, dont je rappelle le titre, Rendez-vous au paradis, publié par les éditions du Chemin de Fer. Et j'invite vraiment les auditeurs à lire ce texte qui est poignant, qui est émouvant et qui est vraiment universel. Et un de ces textes qui mettent en lumière les pans peu montrés, ceux dont on n'a pas forcément, ceux dont on n'est pas forcément fier, mais qui sont en nous, qui sont chez nous, des pans peut montrer des sentiments humains. Voilà. Alors, les voix du livre, c'est terminé pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous fin novembre avec notre nouvel invité, Laurent Rivière, auteur de Polar Noir. Voilà. Merci vraiment, merci beaucoup, Mercedes, pour cette interview.
Merci à vous.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.